Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. L'image de l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron à la sortie de leur rencontre cet après-midi. Le président du Modem et le candidat d'En Marche entendent ensemble renouveler la vie politique. Ils ont reconnu leurs divergences mais aussi souligné leur convergence. Des poubelles entassées devant l'entrée de 16 lycées parisiens ce matin. Les jeunes dénonçaient les violences policières et demandent une justice exemplaire. Reportage devant le lycée Turgot. Dans le journal, nous entendrons la nouvelle secrétaire nationale du Centre de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Muriel Domenac répond aux critiques formulées hier par deux sénatrices sur l'inefficacité de la politique de déradicalisation en France. La bataille pour reprendre l'ouest de Mossoul des mains des djihadistes est à son cinquième jour. Les forces irakiennes sont entrées dans l'aéroport, mais la reprise totale de la ville s'annonce très difficile. Ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant chic à deux pas du palais de Tokyo à Paris pour sceller leur alliance. François Bayrou et Emmanuel Macron ont échangé pendant une heure cet après-midi, au lendemain de la main tendue au candidat d'En Marche par le président du Modem. À l'issue de leur rencontre, les deux hommes ont indiqué qu'ils allaient ensemble sur le même chemin. On a eu des différences, peut-être même des mots de part et d'autre qui étaient un peu rugby, mais il y a des moments où on est obligé de dépasser tout cela car ce qui est en jeu est trop grave, a déclaré François Bayrou. Il a obtenu d'Emmanuel Macron un engagement sur les conditions qu'il avait posées à une alliance.
J'ai indiqué les quatre points qui me semblaient nécessaires pour une rencontre. Il y en a un pour lequel j'avais une exigence absolument particulière, c'est la moralisation de la vie publique. Et notamment sur ce qu'on appelle conflit d'intérêts, c'est-à-dire le fait que de très grands intérêts privés essaient de prendre le pas sur la décision publique. Et donc sur ce point-là, nous avons un accord absolu. Il est clair pour nous que cet univers-là ne peut pas diriger la vie publique. Et pour moi, c'est une garantie que j'estime aux yeux des Français essentielle.
Ce qui est très important, ce qui vient d'être dit, c'est que le renouvellement auquel aspirent nos concitoyens, c'est un renouvellement de notre vie civique. Et c'est cet élément de moralisation qui donne de la transparence à la capacité d'agir et qui lève le soupçon. Ce qui corrode aujourd'hui notre vie publique, c'est le soupçon permanent et c'est la tentative d'hégémonie de quelques-uns contre les autres. Voilà. Et donc je pense que le ciment de cette alliance est très important aussi pour le projet que je veux porter dans cette campagne.
François Bayrou et Emmanuel Macron au micro de Stéphane Robert. Trois semaines qu'ils en parlent et que l'alliance semblait imminente. C'est désormais officiel. Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, retire sa candidature au profit de celle de Benoît Hamon. Les militants verts sont invités à se prononcer sur le fond de cet accord par vote électronique entre vendredi et dimanche. Yannick Jadot qui enjoint Jean-Luc Mélenchon à rejoindre cette alliance. Celui-ci a répondu, je cite, « Ça ne sert à rien de vouloir recommencer pour la millième fois l'accord d'appareil. » Mais le candidat de la France Insoumise se dit disponible pour rencontrer Benoît Hamon dimanche ou lundi. La porte est ouverte. Porte close en revanche ce matin dans 16 lycées parisiens bloqués par les jeunes. 12 autres établissements l'ont été partiellement. Les lycéens dénonçaient les violences policières. Après l'affaire Théo, ce jeune homme qui accuse de viol un policier lors de son interpellation. Récit de la matinée agitée avec Mathilde Dehimy devant le lycée Turgot.
Les premiers sont arrivés à 6h du matin. Poubelles et conteneurs de vêtements bloquent l'entrée principale. À Turgot, on crie pour Théo et les autres. Kimba, en seconde, a été très marqué par l'affaire d'Aulnay. Il a déjà manifesté lors des vacances scolaires.
C'est pour une noble cause. Enfin, je trouve qu'il y a des abus de certains policiers. Je ne les mets pas tous dans le même sac, mais enfin, voilà, moi, je trouve que c'est inadmissible le fait qu'il matraque, qu'il rentre dans l'anus de Théo. Il faut réagir.
Il cherche un peu maladroitement la nuance, demande pêle-mêle une justice exemplaire et un nouveau président qui fasse enfin quelque chose, disent-ils. Walid en a fait une affaire personnelle.
C'est pas juste ces faits-là. Ça, moi, je constate ça là depuis les premiers attentats, depuis le plan Vigipirate. Les policiers, ils se prennent pour des cow-boys. Non, on l'a vécu personnellement. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en garde à vue. Il y a un policier, il m'a mis une claque. Parce que, soi-disant, j'ai pas le droit de regarder un policier. C'est pas normal. Et il y en a marre, c'est tout.
70 élèves sur 1350 bloquent le lycée. Les autres sont en cours, passés par une porte latérale. Leur proviseur leur a demandé hier en AG de réfléchir au sens de leur mouvement. Christophe Barrand tente de faire de la pédagogie.
C'est comme si je leur ai dit, vous avez sûrement des professeurs qui sont peut-être mauvais, mais vous avez aussi l'immense majorité des professeurs qui font extrêmement bien leur travail. On ne peut pas fonctionner comme cela, c'est réducteur. La société est beaucoup plus complexe.
9h30, les élèves de Turgot rangent soigneusement les poubelles et se dirigent ensuite vers le lycée Voltaire, puis la place de la Nation.
La place de la Nation, un millier de lycéens se sont réunis, des heurts ont éclaté avec la police. 11 personnes ont été interpellées, notamment pour vol en réunion et dégradation. La politique de déradicalisation mise en place en France est inefficace et frôle l'amateurisme. C'est ce qu'ont dénoncé hier deux sénatrices qui présentaient un rapport sur le sujet. Un rapport d'étape qui dresse un constat d'échec, des associations pas à la hauteur pour proposer un réel désendoctrinement. Le centre de Pontourny en Touraine censé servir de modèle qui est vide. Alors que faut-il faire concrètement pour engager une vraie politique de déradicalisation? On en parle avec notre invitée ce soir. Muriel Domenac est la nouvelle secrétaire générale du centre de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Elle s'exprime pour la première fois sur une antenne depuis la publication du rapport et elle répond aux critiques au micro de Florence Turm.
J'ai engagé une démarche d'évaluation, de structuration, d'amplification de la prise en charge en matière de radicalisation et je compte utiliser ce rapport, y compris sa partie critique, pour faire plus et faire mieux. Maintenant, la présentation qui en est faite et les commentaires auxquels il donne lieu me paraissent quand même largement excessifs. On faisait état d'un jeune suivi dans le centre de réinsertion et de citoyenneté de Pontourny qui, pendant une permission durant son séjour au centre, aurait cherché à partir en Syrie. Ça relève du registre des faits alternatifs.
Que va devenir le centre de Pontourny?
Le choix a été fait par nos autorités politiques de poursuivre l'expérimentation. Il y a des aspects positifs, notamment la prise en charge pluridisciplinaire, le suivi psychologique avec le professeur Fethi Ben Slama, l'enseignement distanciation esprit critique avec le professeur Bronner, qui vise à contrer le conspirationnisme. La question du public reste, du bon public pour cette troisième voie, reste à traiter.
Que dire de ce que la mission a pu appeler le business de la radicalisation? Existe-t-il aujourd'hui des grilles d'évaluation pour toutes les associations qui travaille à la prévention de la radicalisation?
La critique sur l'amateurisme est à la fois injuste et décalée. Elle est injuste parce que il y a très peu de faits qui posent problème. On cite toujours les mêmes faits, Sonia Imloul, ce sont des faits qui remontent à 2014, qui ont été dénoncés par la préfecture de police en 2015. C'est très ancien. Aujourd'hui, la majorité de la prise en charge en matière de prévention de la radicalisation, ce sont pas des structures ad hoc comme Dounia Bouzard, ce sont des acteurs sociaux reconnus, souvent très classiques. 2400 jeunes, 1000 familles sont suivies par 120 structures. Et cette prise en charge, elle augmente. Dans le travail d'évaluation que nous conduisons dans le nouveau pôle évaluation et programmation que nous avons constitué au sein de mon équipe, apparaît comme premier enseignement, je dirais, que ce qui fonctionne, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, un suivi social, éducatif et psy autant que possible, avec, partout où ça se présente, l'implication de responsables du culte musulman. Par exemple, l'association Capri, que Bruno Leroux est allé visiter le 26 janvier, est tout à fait emblématique, d'abord et avant tout au cœur de la démarche, une initiative locale de la ville de Bordeaux, avec l'État, le département et la région, et une prise en charge pluridisciplinaire, éducative, sociale et psy.
Comment contrer cette propagande, cette opération de communication que Daesh maîtrise si bien vis-à-vis des jeunes?
Le meilleur des contre-récits, c'est d'abord la victoire militaire sur le terrain. La réalité, c'est que Daesh recule et que la victoire militaire contre Daesh, c'est le premier des contre-récits. La défaite militaire fait perdre à Daesh beaucoup de sa force noire. Deuxièmement, le contre-récit, c'est aussi assumer la part répressive, c'est pénaliser le délit de consultation habituelle des sites à contenu djihadiste. Et on sait que les dispositions de la loi du 3 juin ont conduit à une réduction de la propagande sur Internet. Le contre-récit, c'est aussi le contre-récit d'État. Et le service d'information du gouvernement a développé une campagne très efficace et très dynamique qui s'appelle « Toujours le choix ». Et cette campagne a atteint 90% des Français, a donné lieu à un doublement des signalements et à 1 million de consultations du site Stop Djihadisme. Le contre-discours d'État est nécessaire, il n'est pas suffisant pour autant. Donc il faut mobiliser la société civile avec un contre-récit sociétal, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Moi, je rencontre, et mon équipe également, toutes sortes de intervenants. Récemment, des étudiants à Lyon qui ont développé un jeu vidéo qui s'appelle Ice is the End, extrêmement ingénieux, et je rends hommage à leur créativité. Des humoristes également, et on peut saluer par exemple le travail d'Ismaël Saïdi, le dramaturge belge, avec sa pièce Djihad, qui trouve le bon ton entre l'humour et la gravité, la pièce et le débat, la mise en cause du système et des discriminations, mais également la responsabilisation de tous, y compris de ceux qui se définissent et se revendiquent comme musulmans. Le contre-discours, c'est vraiment l'affaire de tous. Mais la prévention de la radicalisation aussi, c'est l'affaire de tous.
C'est un phénomène qui va aller croissant. Comment gérer les retours de Syrie?
Ça fait l'objet d'un travail interministériel actuellement, sous le pilotage des ministères de la Justice et des Familles. On y travaille activement.
Mais vous ne pouvez pas en dire plus en l'état?
Pas pour le moment.
Nous sommes en période électorale. Est-ce que le fait de devoir changer prochainement de gouvernement vous laisse aujourd'hui suffisamment les coudées franches dans les actions que vous avez engagées et que vous continuez d'initier?
La lutte contre la radicalisation est et demeurera une priorité. Il faudra un volet répressif, il faudra un volet préventif et de désengagement. Donc, où que les autorités politiques placent le curseur, et moi je suis absolument pas dans une fonction politique, je mettrai en œuvre le volet préventif et de réinsertion en fonction du curseur qui sera déterminé par l'autorité politique entre le répressif et le préventif.
Muriel Domenac, la nouvelle secrétaire générale du Centre interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, interrogée par Florence Turm. L'aéroport de Mossoul en Irak en passe d'être totalement repris. Les forces gouvernementales ont repoussé les djihadistes de Daesh au cinquième jour de l'offensive pour reprendre la partie ouest de la ville. Mais selon le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po, le plus dur reste à venir. Il est joint par Nabila Hamel.
Il faut bien comprendre que nous sommes dans la même situation que dans Mossoul Est. C'est-à-dire que tant que les coalisés ont été loin du cœur de la ville, les combats ont été rapides et les djihadistes se sont peu défendus de manière à pouvoir concentrer leurs efforts dans la zone qui était facile à défendre, le cœur de la ville. C'est exactement ce qui semble se passer aujourd'hui. Ils sont en train de se concentrer dans la vieille ville où, on le sait bien, il y aura un effet nivellant. C'est une vieille ville avec des rues étroites dans lesquelles ils vont pouvoir pendant longtemps se défendre alors qu'ils ne le pouvaient pas dans le terrain ouvert et en particulier du côté de l'aéroport. Donc il ne faut pas être surpris de l'avancée rapide de ces deux ou trois jours. Croyez-moi, elle va se bloquer rapidement quand on arrivera dans le dur.
Sait-on combien de civils sont restés dans la ville ?
Il est évidemment difficile de le savoir précisément, mais on peut estimer qu'ils sont de l'ordre de 700 000, ce qui est absolument considérable, puisque aujourd'hui, on le sait, la partie ouest est totalement encerclée, on n'en sort pas, ce qui fait que ces civils sont pris comme des otages ou comme des boucliers que les djihadistes vont chercher à conserver le plus longtemps possible.
Mission périlleuse pour l'administration américaine. Le vice-président et le secrétaire à la sécurité intérieure sont au Mexique aujourd'hui. John Kelly, qui a assuré qu'il n'y aurait pas d'expulsion massive des États-Unis et que l'armée ne serait pas utilisée contre les clandestins. Il tente d'atténuer la crise diplomatique entre les deux pays. Accentuée un peu plus tôt par Donald Trump, 2 heures auparavant, le président a affirmé que les efforts engagés par son administration pour expulser certains clandestins étaient une opération militaire. Geert Wilders craint pour sa vie. Le député d'extrême droite aux Pays-Bas suspend ses activités publiques alors qu'il est en pleine campagne électorale. Les législatives ont lieu le 15 mars prochain, mais l'ex-milota des menaces pèse sur la sécurité du candidat anti-islam.
C'est une nouvelle extrêmement inquiétante, a tweeté Geert Wilders après son entrevue avec le Premier ministre néerlandais. Mark Rutte lui a expliqué qu'un policier venait d'être arrêté car il avait transmis des informations sur les déplacements du candidat d'extrême droite à un groupe criminel marocain. Le policier n'était pas chargé de la protection rapprochée de Geert Wilders, mais devait sécuriser les lieux avant des apparitions publiques d'hommes politiques. Le fondateur du PVV, le Parti pour la Liberté, a débuté sa campagne dans la banlieue de Rotterdam il y a quelques jours en fustigeant, je cite, « la racaille marocaine ». S'il est élu, Geert Wilders a promis d'interdire le Coran ou encore de fermer les mosquées. Ses prises de position lui valent de nombreuses menaces de mort et le candidat de 53 ans est sous protection policière permanente. Geert Wilders a décidé d'arrêter toutes les activités publiques du PVV, y compris les distributions de tracts, en attendant les résultats de l'enquête. « Si je ne peux pas avoir une confiance aveugle dans l'équipe chargée de me protéger, c'est inacceptable », a-t-il expliqué.
Le temps pour demain, de la pluie sur le sud de l'Aquitaine, en Midi-Pyrénées, du Massif central à Rhône-Alpes, ailleurs de gros nuages. Il fera entre 2 et 7 degrés le matin.